Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info. Ce soir, avec Laurent, nous allons vous parler de l'avocat au pied nu de Chen Guangsheng, donc de quoi lire. Nous allons aussi vous parler d'Ai Weiwei, nous parlerons des fachos, avec Madame Le Pen par exemple. Nous parlerons de la scientologie et d'un procès en Belgique. Nous parlerons du 100% renouvelable. Il paraît que c'est possible. Nous verrons bien ça avec toi, Laurent. On parlera un petit peu de nucléaire aussi hein, ce soir. Et puis, pour commencer tout de suite, nous allons parler avec toi de la COP21.
Oui, et de la mobilisation qui est en train de se préparer contre la COP21, hein, cette immense organisation qui ressemble plus à une escroquerie qu'autre chose. Et les mauvaises nouvelles commencent à tomber, puisqu'on a appris que le gouvernement français comptait rétablir le contrôle aux frontières pendant un mois, le temps de cette fameuse conférence internationale sur le climat qui aura lieu donc à Paris. Donc, dans les faits, à partir du 13 novembre, tous les citoyens, grosso modo, engagés, la société civile, tous ceux qui sont mobilisés pour le climat, ne seront plus les bienvenus en France. La conférence internationale sur le climat de Paris, qui a lieu fin novembre, vous allez comprendre un peu pourquoi c'est décalé, s'accompagnera donc du rétablissement des contrôles des frontières durant un mois. La libre circulation sera donc suspendue. Et du coup, réintroduction donc temporaire des frontières intérieures avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, à l'occasion de cette belle, magnifique, démocratique COP21, qui entraîne déjà des mesures antidémocratiques. Vous allez me dire, c'est démocratique de prendre ces mesures, puisqu'elles sont dans la loi, mais c'est quand même des mesures de privation de liberté pour les populations européennes. Donc, elles débuteront le 13 novembre, ces mesures. Ah ben, tout à l'heure, j'ai dit que c'était fin novembre, la COP. Eh ben oui, ils s'y prennent un peu en avance pour être sûr qu'il n'y ait pas de militants qui arrivent. C'est pas mal fait quand même tout ça. Ils ont vraiment peur qu'il y ait des vrais écolos, des vrais gens qui se battent pour le climat, qui viennent leur dire leurs quatre vérités à ces escrocs de l'écologie. Et donc qui bloquent tout pour cette raison-là. Ça va durer 30 jours, c'est le maximum qui est autorisé par l'article 23 du code des frontières Schengen. Donc pour suspendre ces libertés de circulation, on rappelle, il y a déjà eu ça en France, notamment à Cannes, lié au G20 de Cannes, hein, c'était en 2012, la Pologne avait fait ça en 2013 aussi, pour la précédente conférence sur le climat, ils avaient là aussi peur de vrais écolos. Et donc, pour protéger les faux écolos, ils avaient coupé, fermé les frontières. Alors, Laurent Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, mais surtout président de la COP21, lui, il vient d'annoncer, donc, tout fier de lui, hein, qu'il y aurait 80 chefs d'État, de gouvernement. La question qu'on se pose, c'est de quoi il a peur, à part de ses militants. Ses militants ne vont pas assassiner Barack Obama, si Barack Obama, il vient. Hein. Non, il a peur juste qu'il soit visible, ses militants, qu'il y ait des grosses manifs, et qu'il réclame des vraies mesures de protection de l'environnement. Alors, pourquoi on dit ça et pourquoi on analyse comme ça? Parce qu'en fait, il y a plein de signes qui montrent qu'il y a une vraie volonté de la France d'empêcher les militants de venir s'exprimer à cette COP21 ou autour de cette COP21. Et c'est notamment la coalition Climat 21, hein, qui regroupe à peu près 130 organisations, qui pointe une énorme difficulté pour les participants à cette coalition 21 et qui en profitent pour venir donc à Paris pour participer à différents débats, qui n'obtiennent pas les visas. Donc c'est la France qui bloque. Alors il y a plein de demandes refusées, plein de demandes qui ne sont pas traitées. Pourtant, dans les faits, il faut une lettre d'invitation, il faut justifier de la capacité à payer les transports, il faut plein de documents. Et Juliette Rousseau, qui est la porte-parole de la coalition Climat 21, explique bien qu'ils ont fait toutes les démarches, mais pour plein de personnes, notamment par exemple le président d'Attac du Togo, il n'a pas le droit de venir. Alors pourtant, Attac, c'est quand même une grosse organisation, ils étaient là juste avant nous, hein. Ils ont montré qu'ils étaient capables de payer, qu'ils payaient les billets aller et retour, qu'ils accueillaient les gens. Eh ben non, on refuse le visa. Alors il y a plein d'exemples comme ça. C'est le cas, par exemple, de Mouad Ghasmi, qui est un Algérien qui s'est beaucoup mobilisé contre l'exploitation des gaz de schiste en Algérie. Et ben lui, quand il est allé à l'ambassade de France, le 21 octobre, muni de son invitation et de tous ses papiers pour demander une demande de visa, ils lui ont dit « Oh ben oui, on est d'accord, vous prendrez rendez-vous, enfin on vous donne rendez-vous le 5 janvier ». Donc après la conférence, exprès bien évidemment. Donc voilà, il y a moult choses que l'État français met en place pour empêcher cette conférence d'avoir un vrai impact. De même, il s'est engagé à héberger les gens participant à la conférence. Or en fait, c'est pas du tout le cas. Les assos qui participent à la conférence n'ont pas de lieu d'hébergement prêté par la ville de Paris ou par l'État. On leur rétorque en général, c'est parce qu'il y a les élections. Les élections, c'est en début décembre, donc on se dit, ils ont encore quand même du temps, il y a au moins une semaine avant les élections. On sent que l'État français bloque. Alors, on s'y attendait. Quand on a vu les sponsors de la COP21, où c'est les plus gros pollueurs du monde, voire de France, qui participent et qui sponsorisent cette COP21, on comprend bien que cette COP21, elle va pas résoudre le problème du climat. Il y a des pétroliers qui subventionnent, il y a l'énorme pollueur qui est EDF, on parlera tout à l'heure du soi-disant du nucléaire qui est bon pour le climat, mais ce qui n'est pas du tout le cas, qui vient donner de l'argent, acheter finalement cette conférence, parce qu'on rappelle que l'Enercop, qui est le seul producteur pour l'instant national qui fournit de l'électricité entièrement renouvelable, avait postulé pour fournir l'électricité. Et on lui a dit non. On a choisi EDF. Pourquoi ? Parce qu'EDF a acheté les gens, a amené de l'argent, a acheté la conférence. Donc voilà, ce qui est en train de se passer nécessite une mobilisation, et la mobilisation aura lieu, il y aura une manif de cette conférence, fin novembre. On en reparlera quand on aura toutes les infos sur ce qui va se passer à Lyon. Mais voilà, ne nous laissons pas avoir. Bon, je pense que vous êtes auditeurs et auditrices conscients que c'est une énorme escroquerie, mais voilà, la mobilisation va quand même continuer. Et les militants étrangers vont trouver quand même, on l'espère, des moyens de venir s'exprimer lors de cette COP21.
Alors, vous avez peut-être entendu la nouvelle du jour en provenance de la Chine. C'est la fin de la politique de l'enfant unique. En tout cas, en Occident, c'est comme ça qu'on appelle cette planification familiale. Les couples pourront donc avoir deux enfants. Alors la rumeur courait déjà depuis cet été. C'est une politique qui a été mise en œuvre en 79 pour ralentir la croissance démographique. Une politique qui avait déjà été assouplie plusieurs fois depuis ces 10 dernières années. En particulier en 2013, les autorités avaient décidé que les couples dont l'un des deux parents était enfant unique pourraient avoir un deuxième enfant. Alors, moi j'ai commencé à lire pas mal de choses là-dessus, alors en particulier sur certains sites de presse où il y a des commentaires dessous. Alors tout de suite c'est l'emballement, j'ai pu lire que les Chinois comme les Arabes allaient nous envahir. Oui, je l'ai lu écrit comme ça.
Bah, bravo.
J'ai lu un article sur le site du Figaro.fr. Ils ont passé pas mal de temps, je pense, à nettoyer les commentaires dessous. Alors est-ce que ça va faire exploser d'un seul coup la natalité? Bon, déjà il faut se rendre compte que le taux de natalité en Chine a largement baissé, hein, puisque en 1970 le taux était de 33 naissances pour 1000 habitants, en 2013 il est de 12 pour 1000 habitants. C'est à peu près la même chose qu'en France, hein, je vous le dis. On pourrait comparer avec le Niger par exemple, 47 pour 1000 habitants, donc c'est un taux beaucoup plus impressionnant. Voilà, donc il y a eu quand même une baisse extrêmement importante de la natalité. Alors
ça va quand même exploser avec ce changement.
Alors, en fait, moi j'ai lu pas mal d'analyses cet après-midi et ils sont pas aussi optimistes que toi ou négatifs que toi, je sais pas comment il faut le dire. Il va y avoir une forte disparité entre les campagnes et les villes.
C'est plutôt dans les villes où on va faire des enfants.
Alors non, dans les villes, l'éducation c'est très cher, le logement c'est très cher, les logements sont petits, il faut trouver du travail, il faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont loin de chez eux et de chez elles pour aller travailler, en particulier dans les régions avec les usines à textiles par exemple. Donc c'est pas si simple en fait. Donc oui, il pourrait y avoir un petit peu plus d'enfants, mais par exemple l'ouverture en 2013 a pas fait augmenter tellement ces naissances. Il n'y a pas eu les résultats escomptés, alors qu'en fait déjà les autorités espéraient un petit peu avoir plus d'enfants. Alors pourquoi? Il y a plusieurs choses. C'est qu'ils estiment que leur population elle est vieillie, donc il va falloir des enfants pour les retraites. Et puis il y a eu un effet du contrôle des naissances, c'est que il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Bah, donc ils espèrent pouvoir un petit peu réguler cette chose. Pourquoi? Parce que les gens, les couples par tradition ont choisi de mettre des garçons au monde plutôt que des filles. Hein. Ça a été des choix dans les familles. Donc ça se répercute dans la société. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres gens qui pensent à d'autres choses. C'est que cette politique de l'enfant unique a provoqué des abus, dont des avortements forcés, des stérilisations forcées de la part des fonctionnaires du parti. Et c'est comme ça que j'en viens à vous parler ce soir d'un ouvrage, L'avocat aux pieds nus, Sheng Guangsheng, un activiste, un militant dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors il a sorti un ouvrage là il y a quelques temps, hein, qui est paru cet été en France aux éditions du Globe. Alors c'est une biographie à l'écriture plutôt haletante, parfois c'est un petit peu grandiloquent. Ça commence avec le récit rocambolesque de son évasion de sa propre maison dans son village natal. Cet homme est né voyant, il est devenu aveugle, il a subi 4 ans de prison, des enlèvements, des détentions illégales, des passages à tabac, et il s'est enfui, c'était l'évasion ou la mort. Il est donc né dans un petit village de campagne, en trou, hein, comme on dit simplement. Enfant aveugle, il n'a pas le droit d'aller à l'école. C'est vers 18 ans qu'il a rejoint d'abord un premier centre pour aveugles où il a connu la malnutrition, puisque la Chine, comme beaucoup d'autres pays, n'accompagne pas ses aveugles.
La Chine n'accompagne personne.
C'est vrai, on va faire simple. Voilà, on va dire comme ça. Il a finalement rejoint une autre école où il apprendra enfin à lire, il apprendra le braille. Et c'est en voulant défendre les droits de sa famille que tout commence. Ça commence d'abord par ses droits à lui en tant qu'aveugle. Et puis, il faut savoir que sa famille, comme toutes les familles chinoises, paye une taxe par personne. Et puis, les membres de la famille doivent du travail à la collectivité. Sauf que normalement, les handicapés et les aveugles sont exemptés de cette taxe. Sauf qu'en fait, la taxe, elle est elle était toujours réclamée par les autorités, elle était réclamée coûte que coûte. Donc là-dessus, il se bat, il va faire des tas de lettres, il va aller voir des tas de gens, et il devient ce qu'on appelle un avocat aux pieds nus. Cette appellation, elle renvoie au médecin aux pieds nus, c'est-à-dire qu'à un moment, les autorités chinoises avaient permis à des gens qui pouvaient avoir une formation médicale de faire des actes médicaux dans les villages en particulier, sans pour autant être payés. Donc ils n'étaient pas vraiment reconnus, mais on leur permettait de faire des choses. Et puis cette appellation a donné cette appellation avocat aux pieds nus, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait une école de droit, qui n'a pas de diplôme, qui ne peut pas être payé pour ça, et puis souvent qui ne le veut pas, parce que c'est plutôt des militants, c'est plutôt des activistes. Et alors, il va se battre ensuite contre les stérilisations et les avortements forcés. Il va récolter, lui et son entourage, des témoignages assez effroyables. Il faut imaginer des hommes et des femmes qui sont traînés par les cheveux, parfois à moitié nus, frappés, qui sont jetés dans des camionnettes et stérilisés de force. Et puis parfois, pour être bien sûr que le message soit bien passé, c'est toute la famille qui est stérilisée de force. Les familles sont obligées de payer ces avortements forcés, sont obligées de payer ces stérilisations forcées. Et c'est avec cette lutte qu'en fait tout va basculer, c'est parce que des gens de partout dans sa région vont venir le voir, il va récolter des tas de témoignages, il va aider des gens sur un tas d'autres sujets. Dans son village, les gens vont aussi se battre contre un projet de voirie. Enfin, voilà, il devient vraiment cet avocat aux pieds nus, qui en plus devient célèbre parce qu'il est aveugle et que il faut savoir que quand on est aveugle en Chine, c'est pas très bien perçu. On est vraiment mis à l'écart. Non seulement les autorités ne font rien pour vous, mais en plus au niveau de la tradition, vous êtes mal vu. C'est vraiment, je fais un mauvais jeu de mots, vous m'en excusez, mais vraiment, on veut pas de vous. Vous êtes vraiment hors de la société. Vous êtes un marginal. Et avec cette lutte, en fait, il va se mettre à voyager. Il va aller jusqu'à Pékin. Il va rencontrer des étrangers, des journalistes. Il va chercher à faire connaître cette situation. Il va rencontrer toutes les structures, les institutions de l'État, tous les niveaux du parti, toutes les hiérarchies. Et en fait, on l'envoie à chaque fois boulé, il faut être clair. Et puis c'est bien parce qu'il a des contacts avec des journalistes étrangers que tout ça, ça va se savoir. Et à partir de là, c'est vrai qu'il est rentré dans un engrenage. Il est surveillé, il est passé à tabac, il a été enlevé, séquestré dans un hôtel pendant plusieurs mois, puis jugé pour des faits anodins, complètement inventés. Il a été condamné à 4 ans de prison, qu'il a fait en entier, ce qui est assez rare pour des prisonniers condamnés de droit commun. Une fois libéré, il est placé en résidence surveillée dans sa propre maison. Donc c'est-à-dire qu'il y a des tas de gardes militaires, des policiers qui restent autour de sa maison. Ils installent de la vidéosurveillance. On finit par lui couper l'électricité à l'intérieur. Il n'a pas le droit de sortir, pas le droit d'avoir de téléphone, pas le droit d'avoir de télévision, pas le droit d'avoir de contact, même avec sa propre famille. La maison va être fouillée, vidée, tout va être volé. Ils vont être tabassés avec sa femme Wei Jing. Et c'est comme ça qu'à un moment, il va décider que de toute façon, il va crever, donc il faut qu'il s'en aille. Il faut imaginer quand même qu'il est parti, il vous raconte qu'il avait des diarrhées, c'est assez horrible. Par contre, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans ce récit, on n'est jamais à pleurer. C'est-à-dire que c'est un homme qui vous raconte son combat, il le raconte plutôt avec un dynamisme et une énergie, il fait pas le martyr. Il nous raconte des choses pas drôles, mais malgré tout, ça reste vraiment un récit d'une grande force. Il faut savoir que les autorités et le parti ont colporté des rumeurs contre lui. Il aurait été un espion à la solde des États-Unis d'Amérique. Oui, ça marche encore, ce genre de truc. Il était millionnaire et qui se moquait des villageois. Il a été finalement exfiltré. Il vit maintenant aux États-Unis d'Amérique.
Donc il était espion, il était exfiltré par les Américains et il est allé aux États-Unis.
Ouais, alors il a récupéré sa femme et ses enfants. Par contre, il y a donc ses frères, dont un est membre du parti. C'est vrai qu'ils subissent les foudres du parti, maintenant qu'il n'est plus là. Mais c'est un récit aussi sur toute la corruption qu'il y a en Chine, qui gangrène en fait tous les niveaux. Le parti est de partout. Tous les petits fonctionnaires sont là pour essayer de récupérer du pognon, et en particulier dans les villages, où vraiment le parti est resté fortement présent. Alors c'est vrai que sur un tel récit, on peut se demander comment un tel homme a pu subir autant. Le truc, c'est qu'il n'est pas le seul, ils sont nombreux et nombreuses, les hommes et les femmes qui sont en résidence surveillée aujourd'hui, pour avoir interpellé les autorités, comme pourtant le parti leur autorise, interpeller les autorités pour des faits de corruption, de violence, ou du manquement aux droits, tout simplement. Alors on dénombre de nombreuses disparitions, des procès où se mêlent faux témoignages, fausses preuves, des emprisonnements, des passages à tabac, des tortures. La Chine n'a pas fini de réprimer, puisque à partir du 1er novembre prochain, La législation chinoise en rajoute encore une petite chose au niveau du contrôle et de la censure sur Internet, puisque la justice va pouvoir infliger jusqu'à 7 ans de prison à ceux et celles qui posteront une falsification de fait dans le but de diffamer autrui. Autant dire que c'est un moyen facile de frapper tous les opposants, les blogueurs, les critiques. Voilà. Je vous propose donc de lire L'avocat au pied nu de Shen Guangsheng. Et puis je vais continuer, si veux bien, avec la Chine.
Et enfin, Lego.
Ouais, en tout cas, avec un artiste chinois dont vous a parlé récemment, de Ai Weiwei. Oui, c'est plus léger, vous allez voir. Je voulais adoucir un petit peu tout ça quand même. Alors, c'est Ai Weiwei, artiste chinois dont vous a parlé il n'y a pas très longtemps, qui vient actuellement en Allemagne et qui continue à faire des expositions un petit peu de partout dans le monde et qui préparait sa prochaine exposition prévue en décembre à la National Gallery of Victoria à Melbourne, en Australie. Et il avait décidé de travailler à partir de Lego, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, il a fait une grosse commande. Hein, oui, il a acheté d'un coup tout plein de Lego et il a fait une commande à Lego. Bah, Lego a refusé de le livrer.
Mais pourquoi ?
Ah bah parce que...
qu'ils ont repéré que c'était lui et du coup, ils se sont dit, il va utiliser nos Lego pour faire de l'art.
Politique,
et on ne veut pas être associé.
C'est exactement ce qu'ils ont déclaré.
Oh, c'est beau.
C'est beau, hein ?
Ah, mais ouais.
C'est beau. Alors, bon, évidemment, Ai Weiwei, ça l'a fait réagir. Alors, bon, il a accusé Lego de vouloir protéger les parcs Legoland. Mais comme l'a rappelé l'entreprise, les parcs ont été vendus à Merlin Entertainment. Il faut savoir qu'il y a un parc qui va s'ouvrir en Chine, à Shanghai. Mais là où Lego est un petit peu dans le mensonge, c'est que l'entreprise conserve 30% hein, en fait, quand même dans l'affaire. Donc, ils sont quand même encore partie prenante. Mais bon, il faut surtout dire que Lego, c'est des blocs, mais c'est aussi des jeux vidéo et tout un marché dérivé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Ai Weiwei, il a déjà fait une exposition avec des Lego.
Ouais, c'est peut-être pour ça, ils n'avaient pas aimé.
Peut-être pas, ça s'appelait Hashtag Trace. C'était une expo qui avait été proposée dans l'ancienne prison d'Alcatraz. Il y avait 176 portraits de prisonniers actuels ou passés, comme Nelson Mandela par exemple, ou Edward Snowden. Donc c'était avec des petites briques qui étaient donc au sol, ça faisait des petits portraits, enfin des grands portraits plutôt. Donc voilà, bon, en échange, Ai Weiwei, il a proposé une revisite peut-être de Marcel Duchamp, en tout cas beaucoup y ont vu ça, puisqu'il a mis des Lego qui flottent dans une cuvette des toilettes. Alors pour Lego, c'est dommage parce que c'est quand même une mauvaise publicité, puisqu'il y a un certain nombre de musées d'art contemporain qui ont accepté de soutenir Ai Weiwei, puisqu'en fait il y a plein d'internautes qui ont décidé de lui envoyer leurs Lego. Alors pour ça, il y a par exemple donc la National Gallery de Victoria à Melbourne, mais la Royal Academy de Londres et d'autres musées, il n'y en a pas en France encore, qui ont accepté de récolter les petites briques, les petits blocs. Donc il va y avoir dans certains musées une voiture qui va être posée, il y aura un trou sur le toit et les gens pourront y glisser à l'intérieur leur Lego. Voilà, bon, c'est un peu bête de Lego, mais c'est vrai qu'en même temps ils protègent vraiment leur outil, puisque par exemple ça ne les a pas gênés que Nathan Sawaya fasse des expositions qui s'appellent The Art of Brick, un peu de partout dans le monde. Il y en a même parfois deux en même temps à travers le monde, et lui il fait des sculptures aussi avec
oui, mais ça doit être
des
plus
Lego.
Sympa.
Oui, par exemple il va te faire la Vénus de Milo,
voilà,
un T-Rex,
oui, des trucs de bisounours.
Ouais, c'est un peu plus bisounours, voilà. Ouais. Bah là ça les gêne beaucoup moins.
Bah, on a l'habitude de la censure des États, on a aussi de la censure par les entreprises capitalistes. On va parler un petit peu des fachos maintenant, dans cette rubrique qui revient régulièrement, parce qu'ils font parler d'eux pas mal, avec l'affaire du jour sur Marine Le Pen, puisqu'on l'a appris grâce à un élu député démocrate allemand qui s'appelle Manfred Weber, que hier, Marine Le Pen avait voté 4 fois au Parlement, alors qu'elle était absente. Comment ça ? Comment c'est possible ? Donc il y a eu, donc lui, il a dénoncé ça, vraisemblablement, donc c'est son voisin à qui elle avait laissé sa carte, qui a voté à sa place. Or, c'est strictement interdit, hein, c'est de l'escroquerie, puisque c'est elle qui est élue, qui représente quelque chose et qui doit voter de sa main. Sinon, à la fin, il n'y a plus qu'une seule personne au Parlement qui prend les votes de tout le monde, hein, et ils arrêtent de travailler. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Donc voilà, il y a deux articles, 166 et 167, qui obligent à ce que le vol soit personnel, nominal, et qu'on n'a pas le droit de voter pour quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre, en l'absence de quelqu'un. Alors ça, elle a, bon, bien évidemment, elle a essayé de s'expliquer, assez maladroitement, parce que bon, elle est prise en flagrant délit de tricherie, quand même, il faut le dire. Bon, elle dit qu'il s'est trompé, qu'elle avait laissé sa carte, enfin, qu'elle avait perdu sa carte et qu'il l'avait trouvée, enfin voilà, bon, elle a inventé n'importe quoi, bien évidemment. Ce que disait Manfred Weber, parce que elle a menacé de porter plainte contre lui. Alors bon, je sais pas pour quelle raison elle pourrait porter plainte contre lui, qui révèle que elle a voté sans être là. Il y a une preuve, hein, c'est flagrant, ça a été constaté. Je sais pas quelle plainte elle pourrait faire. Mais lui, il dit que ce qui est le plus grave, c'est qu'elle bafoue la démocratie. Alors même s'il signale que c'est pas quand même quelqu'un qui véhicule les valeurs de la démocratie, elle doit se plier quand même aux règles puisqu'elle a été élue. Donc voilà, c'est pour nous rappeler que soi-disant le Front National et ses élus, ces militants sont un parti différent des autres, mais en fait tout le monde sait depuis très longtemps que c'est un parti comme les autres, avec des idées plus nauséabondes que la moyenne, même si les Républicains font compétition un peu de temps en temps. Donc voilà, on va rester avec les fachos et on va parler de la CIMADE. La CIMADE organisait une réunion, débat, projection à Bastia, donc en Corse, autour des migrants et de la migration, des gens qui se déplacent. Et ben voilà, ils ont été agressés. C'était lundi soir, il y a eu une vingtaine de personnes qui se réclament d'un collectif qui s'appelle le Collectif de Vigilance Nationale Corse, qui fait bien facho quand même. Donc ils sont venus, ils ont grosso modo perturbé, voire empêché le débat et la projection du film, en laissant entendre qu'eux, ils avaient des soucis et que c'est à cause des migrants. Alors je sais pas comment, mais il y a toujours cette théorie hein, que les migrants prennent le travail des autres, enfin tous ces trucs qui sont économiquement faux. Donc voilà, c'est, je signale ça parce que on parle assez peu de l'implantation du Front National en Corse parce que elle est difficile pour une raison, pour plein de raisons, mais notamment une, c'est que ils ont déjà des partis nationalistes, hein, donc ont des idées déjà nationalistes. Du coup, l'extrême droite a un peu moins de place, mais l'extrême droite a quand même plus de 20% de vote aux dernières élections. Donc voilà, le fascisme est aussi présent en Corse sous la forme qu'on connaît nous du Front National, en plus des partis nationalistes qui ont de toute façon le même discours que le Front National, mais juste sur les Corses, quoi. Et puis pour terminer, une action fasciste aussi, faite sûrement par des gens proches des mouvements d'extrême droite, notamment certains agriculteurs, comme on a pu voir et entendre dans différents reportages. C'est la stèle à la mémoire de Rémi Fraisse qui avait été installée à l'endroit où ce jeune militant écologiste a été tué il y a un peu plus d'un an par une grenade offensive tirée par un garde mobile qui lui est toujours en liberté. C'était dans le Tarn, dans la nuit du 27, donc c'est la dégradation, enfin le vol de cette stèle, c'était dans la nuit du 27 au 28 octobre. Alors, on a vu ces images hein, quand les personnes sont allées se recueillir sur cette stèle le 25 octobre pour les un an de la mort de Rémi Fraisse. Alors, c'est dénoncé ces violences qu'il y a dans cette région, dans le Tarn, par la Ligue des droits de l'homme notamment. Il y a eu un gros rapport hein, sur le climat qu'il y a là-bas, parce que même les politiques socialistes qui soutenaient le barrage avaient des propos qu'on pourrait qualifier d'autoritaires, voire d'extrême droite, mais notamment les agriculteurs qui étaient très présents pour soutenir la dégradation de l'environnement avec ce qui était prévu, hein, cette rétention d'eau, ont eu des comportements fascistes assez régulièrement, en agression, en agressant les militants, en détruisant des choses. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient pu faire pendant la mobilisation contre le barrage de Sivens. Donc on imagine que c'est ces gens-là qui ont eu les mêmes actions pour détruire et enlever la stèle à la mémoire de Rémi Fraisse. Donc voilà, c'est quand même juste essentiellement triste, hein, puisque c'était une stèle et que ça n'avait pas beaucoup non plus de valeur, si ce n'est de soutenir et de se rappeler de la mort de ce militant. A priori, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui préfèrent la mort des militants et en tout cas qu'on ne se souvienne pas pourquoi il est mort. Donc voilà pour cette rubrique sur les fachos cette semaine.
Alors on va parler de la scientologie. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas parlé de la scientologie. Et bien il y a un grand procès, le premier, qui s'est ouvert lundi au tribunal correctionnel de Bruxelles. C'est le premier en Belgique. Alors, c'est pas un procès contre une religion, mais contre une organisation commerciale. Hein, c'est ce que dit le tribunal. 13 personnes physiques et morales sont visées. Alors, dans les prévenus, nous avons 11 membres cadres et anciens membres de l'église de Scientologie belge. L'église Scientologie Belgique, donc la branche belge de l'église de Scientologie, et l'église Scientologie Europe, donc c'est le bureau européen pour les affaires publiques et les droits de l'homme. Hein, c'est une belle filiale de l'église de Scientologie, une filiale directe hein, qui émane du siège aux États-Unis d'Amérique. Alors, les scientologues belges sont accusés par le parquet fédéral d'avoir mis sur pied une organisation criminelle pratiquant l'escroquerie. Ils sont accusés de fraude, de pratiques illégales de la médecine, de violation de la vie privée et d'extorsion. Tout ça. Oui.
Ceci dit, il n'y a pas de surprise, hein, non, ça ressemble à ce qu'ils font d'habitude.
Exactement. Alors, oui, tout à fait. Alors, le parquet, qui estime hein, que c'est une organisation criminelle, se cache pas trop d'espérer que le procès aboutisse au démantèlement de ses filiales belges. Hein, il faut se rappeler que l'église de Scientologie est arrivée en 1974 en Belgique et qu'en 1997, le Parlement belge l'a qualifiée de nuisible et dangereuse et l'a classée comme secte à l'époque. Hein. Alors, à côté de ça, l'église de Scientologie dénonce une atteinte aux droits de l'homme et à la liberté religieuse ainsi qu'un acharnement judiciaire du parquet. Alors, il faut savoir que la liberté religieuse, c'est le fondement des droits de l'homme. Hein, pour l'église de Scientologie, c'est un des grands trucs. Partout, ils essayent d'aller dans des conférences, ils soutiennent d'autres églises ou d'autres sectes sur ce sujet-là. Donc voilà, évidemment, ils sont intervenus là-dessus. Alors, il faut se rendre compte que c'est une affaire qui date pas d'hier, hein, puisque les premières plaintes ont été déposées il y a 18 ans. Il faut remonter à 1997, date de l'ouverture d'une première enquête. C'était une plaignante qui s'était tournée vers la justice, une ancienne membre de l'église de Scientologie. 2 ans plus tard, il y a des perquisitions qui sont menées dans les bureaux de la Scientologie belge. Et puis en 2008, il y a une nouvelle enquête qui est ouverte à la suite d'une plainte de l'Office bruxellois pour l'emploi qui accuse la Scientologie d'avoir publié de fausses offres d'emploi dans le but de recruter des adeptes. Oui, tu peux lever les sourcils, Laurent, tout à fait. Alors finalement, ces deux enquêtes n'en sont restées qu'une, hein. Elles ont été fusionnées, ce qui a abouti à ce procès. Alors depuis le début de la semaine, ce sont ces prévenus qui sont à la barre, qui sont appelés. Alors par exemple, on a eu la responsable de la prescription des doses de vitamines. Alors ce sont des vitamines, oui, ce sont les vitamines que les adeptes doivent prendre dans le cadre du programme de purification. Oui, c'est pour ça, ça qu'ils sont attaqués pour pratique illégale de la médecine. Hein. Alors elle explique, cette scientologue, qu'elle se base sur les écrits de Ron Hubbard, le fondateur, et sur ses propres lectures pour indiquer les doses de vitamines à prendre. Alors au tribunal, elle a été questionnée sur sa relation avec la femme qui a déposé cette plainte en 1997, puisqu'elle se connaissait, et c'est bien cette plainte hein, qui a déclenché l'enquête et le procès. Alors elle explique, cette scientologue, que oui, elle a bien rencontré cette personne, qui est tout à fait, elle et son mari étaient membres de la Scientologie, mais que quand même cette dame, elle allait pas bien. C'est-à-dire, c'est assez classique chez les attaques et la stratégie de défense de l'église de Scientologie, c'est qu'on fait passer les vilaines critiques et les anciens membres pour des dépressifs, des suicidaires, pour des gens qui allaient pas bien, que de toute façon c'est eux leur faute. Et donc c'est exactement les propos et le discours hein, qu'elle va tenir au tribunal mardi. L'idée hein, c'est d'enfoncer hein, tous ceux et toutes celles qui pourraient témoigner contre la Scientologie. Alors, mardi d'ailleurs, la Scientologie s'est énervée en disant que, en reprochant au président du tribunal d'être trop orienté hein, dans sa manière de voir les choses et de ne pas être assez respectueux des croyances des scientologues. Alors, je vous rappelle que les croyances, hein, quand même, il y a une pseudo-science qui s'appelle la Dianétique. Oui, oui, oui. Et qu'il y a un superbe électromètre. Hein, c'est un appareil qui démontre que vous n'allez pas bien.
Ça ressemble un peu au détecteur de mensonges qu'on avait dans les années 70, là, qu'on peut voir encore dans certains films, qui mesure les différentes activités qu'on peut avoir, mais qui sont pas, qui ont jamais été fiables d'ailleurs, ni pour les détecteurs de mensonges, encore moins pour ces pseudo trucs de la scientologie. Voilà, mais c'est basé un peu sur les mêmes principes qui marchent pas.
Non, mais c'est surtout que, a priori, moi, de tout ce que j'ai pu en lire, tous ceux et toutes celles qui ont passé ce moment fort dans leur existence face à cet électromètre, on leur a tous dit qu'ils n'allaient pas bien. C'est-à-dire que c'est systématique.
Non, c'est forcé, parce que si on te dit que ça va bien, tu pars.
Bah oui, donc,
le but, c'est que tu rentres dans l'engrenage.
Que tu achètes des livres, voilà. Que tu achètes des séances de formation, puisqu'il y a des modules qui sont tout prêts. Vous allez voir, vous n'avez plus qu'à faire le chèque, c'est tout simple. Puis évidemment, plus vous montez, plus c'est cher. Donc c'est là où le parquet fédéral a décidé que c'était une entreprise commerciale qu'ils attaquaient.
Hein. C'est là où l'église de Scientologie n'est pas une église du tout. Hein, parce que même les églises qui ne sont pas reconnues, hein, notamment... certains évangélistes ou des trucs comme ça, quand les gens y vont dans ces trucs, dans ces églises-là, on leur demande pas forcément de l'argent. Et si on leur demande pas de l'argent, c'est parce que c'est vraiment des églises pas reconnues. Là, c'est vraiment avant tout de faire du business et de bloquer les gens, parce qu'il y a plein de livres sur la manipulation mentale qui sont capables de mettre en place sur même des gens qui sont quand même assez conscients, parce qu'on arrive à manipuler quand même. Il y a des techniques de manipulation mentale. Ben voilà, c'est une vraie secte.
Ouais, puis tu sais, ils se battent contre la psychiatrie, c'est-à-dire que la scientologie, c'est un truc que Ron Hubbard a toujours détesté, donc psychologue et psychiatre, ils détestent, et il y a toute une littérature scientologue sur la question. Alors, je ne sais pas si tu connais Sea Org au sein de la scientologie.
Non.
C'est l'organisation centrale de l'église de Scientologie, c'est l'organisation qui recrute et qui forme les cadres de l'organisation. Ils ont mis en place tout un système. Et pourquoi ça s'appelle Sea Org ? C'est parce qu'en fait, ils sont sur des bateaux. Ils essayent de rester en mer, loin de toute atteinte, ce qui leur évite de tomber sur le coup de la justice de certains pays. Et puis surtout, ils espèrent aussi pouvoir cacher un petit peu leur pognon, comme ça, c'est une certaine méthode. On pense que certaines personnes, que ce soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays où il y a eu des tentatives de procès contre des scientologues, un certain nombre ont été cachés sur ces bateaux assez longtemps pour que la justice passe. Alors en France, je vous rappelle qu'en 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation des deux structures parisiennes de la scientologie, le célèbre Celebrity Center et sa librairie. Il y avait eu des amendes de 200 000 et 400 000 euros à l'époque. Il y avait 5 scientologues qui avaient été condamnés pour avoir profité de la vulnérabilité des adeptes. Et puis là, il y a très récemment eu une ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Arcadia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. C'était une douzaine de salariés de la société Arcadia. C'est une boîte qui est dans les Yvelines, qui avait signalé que la direction semblait être largement infiltrée par des membres de la scientologie, puisqu'on les amenait pas trop de gré mais plutôt de force à suivre des formations dispensées par des scientologues. C'était bien fait quand même tout ça. Donc voilà, là il semblerait qu'il y ait un petit peu une avancée. Il y a d'autres affaires en France qui malheureusement ont plus de mal à avancer, essentiellement parce que soit il y a des manipulations quand la police arrive, il n'y a plus les documents, soit parce que les scientologues visés ont été exfiltrés comme on dit, et que il n'y a plus personne sur qui taper. Voilà, demain ce sont des anciens adhérents, des anciens membres qui témoignent. C'est un procès dont on attend évidemment le résultat.
On notera quand même qu'à Lyon, ils ont toujours pignon sur rue.
Tout à fait.
Si vous passez devant chez eux, la petite placette qui est devant chez eux, c'est en marbre, enfin en pierre, c'est la classe. Si vous passez devant Radio Canu, vous allez voir que c'est le devant de Radio Canu est beaucoup moins beau. Donc bizarrement, on a l'impression que la ville de Lyon, elle embellit le devant de la Santo et pas le devant de Radio Canu. C'est quand même incroyable qu'il y ait toujours, qu'ils soient là, que personne les embête, que bon, je dis pas que la façade est pas taquée des fois, mais voilà, c'est horriblement horripilant.
Alors en France, on a quand même la chance d'avoir plutôt un front hein, contre la scientologie, et ben même dans la presse People. Oui, parce que alors peut-être que vous lisez la presse People et vous avez entendu que l'ex-petite amie de Jim Carrey s'était suicidée. Bon alors déjà, je vous passe même pas l'idée de ce genre d'articles à la base qui sont à vomir, hein, l'ex-petite amie de Bidule et de machin. Reste que l'ex-petite amie était a priori liée à la scientologie et ça donne par exemple sur gala.fr ou closermag.fr tout un tas d'articles, excusez-moi, pas vraiment sympathiques avec la scientologie. C'est le seul truc de bien que j'ai trouvé sur ces sites-là, je vous le dis, mais voilà, il y a plutôt un petit peu un fond quand même, il faut le dire.
Alors on va parler un peu d'environnement et revenir sur le scénario 100% renouvelable de l'ADEME. Alors la petite histoire, on avait parlé à l'époque, c'est que le rapport avait été en avril dernier on va dire sorti comme ça, il devait être publié officiellement, il y a eu des pressions et l'ADEME l'avait pas publié. Et donc quelqu'un de l'ADEME vraisemblablement avait balancé à la presse le rapport pour obliger tout le monde à publier ce rapport. Et donc là, nous avons le rapport et l'ADEME, donc l'Agence de Développement et de Maîtrise de l'Énergie, hein, c'est un truc sérieux, hein, c'est pas des écolos intégristes, c'est même pas des écolos, hein. Ils sont, enfin, c'est un petit peu parce que leur travail c'est sur l'environnement, mais ils sont avant tout des scientifiques. Donc qui bossent sur plein de choses liées à l'environnement. Et là, donc, ils se sont posé des questions sur la fourniture d'énergie électrique, et dans leur rapport, qui est un gros pavé, hein, un peu compliqué à lire, mais je vais vous faire un petit résumé, étudie sur 7 ans l'impact qu'aurait de passer à la fourniture à 40% de renouvelables dans l'électricité, 80%, 95% ou 100%. Et ils font les comparaisons. Donc, on va plutôt regarder les scénarios à 100%, qui nous intéressent plus, mais on va parler des autres en même temps. Donc à 100%, le parc électrique français tel qu'il est prévu dans le scénario aurait 230 gigawatts de puissance. C'est à peu près le double de ce qu'on a actuellement, hein, puisqu'on est aux alentours de 120, 128 gigawatts actuellement. C'est-à-dire que donc d'ici 50 ans, on va doubler la production d'électricité. Et avec du 100% renouvelable. Mais comment c'est possible? Alors ils ont fait les calculs, ils ont expliqué que ça va reposer avant tout sur l'éolien et le solaire, puisque l'hydraulique est assez limitée dans les développements en France, hein, puisque les fleuves sont presque tous équipés, il reste du micro-hydraulique encore installé, mais ça fera pas de gros chiffres. Donc il parle de l'éolien et du solaire essentiellement. L'éolien actuellement c'est 9 gigawatts, ça passerait à 96 gigawatts, donc x 10. L'éolien en mer passerait à 10 gigawatts, le solaire passerait de 5 à 63 gigawatts. Donc ça c'est un calcul facile à faire, c'est possible, il y a les technologies, il y a le soleil et le vent disponibles, il n'y a pas de souci. Il explique qu'en même temps il faut développer des gros moyens de stockage de l'énergie, puisque si on est en 100% renouvelable, il faut être capable de stocker pour la nuit, pour les moments où il n'y a pas de vent ou pas de soleil. On vous rappelle qu'il n'y a jamais les deux. Hein, que quand on a un anticyclone, par exemple, on a en général du soleil et pas de vent. Et quand on a des dépressions, on a en général pas de soleil et du vent. Donc c'est assez bien fait, finalement, cette nature. Et enfin, on vous rappelle, pour ceux qui n'avaient pas compris, que le vent, c'est de l'énergie solaire. Ça, si vous n'avez pas compris que tout est solaire, si vous n'avez pas écouté à l'école, quand on vous expliquait que le vent était créé par les masses qui sont chauffées par la seule énergie qui arrive de l'extérieur, c'est-à-dire le soleil, etc. Moi, je ne veux pas vous refaire un cours de collège sur la création des vents. Mais donc, finalement, du coup, c'est tout solaire, ce qui nous reste. L'eau, d'ailleurs, est aussi une énergie solaire, hein, parce que c'est le soleil qui fait évaporer l'eau, qui participe au cycle, qui amène de l'énergie au cycle de l'eau. Enfin, voilà. Bon, bref, arrêtons d'être prof de collège. Et si on suit toute l'étude comme ça, c'est très intéressant. Il parle aussi, on comprend que c'est tout à fait possible, c'est ce qu'ils veulent démontrer. Et après, ils vont comparer les coûts. Parce que c'est là où on se dit, oui, d'accord, on peut toujours faire 100% de renouvelables, mais combien ça va nous coûter? Alors, il compare les différents scénarios, je rentre pas dans les chiffres non plus, mais grosso modo, ça coûterait à peine plus cher, 2% plus cher, de passer au 100% renouvelable. Ils ont même démontré que le 80% renouvelable, par exemple, coûterait moins cher que le scénario qui est prévu par le gouvernement, qu'ils ont fait voter il y a quelques semaines, là, le projet de la transition, la fausse transition énergétique, où on passerait, je crois, qu'à 40% d'énergie renouvelable dans l'électricité. Donc ça coûterait moins cher de passer à 80%. Et par contre, passer à 100%, ça augmenterait le coût. Donc ils calculent, eux, à 2%. Alors, ils expliquent que ça dépend de plein de choses. Ça dépend notamment des taux des emprunts. qui sont donnés aux entreprises qui feraient du développement durable, c'est-à-dire de l'énergie renouvelable pour produire l'électricité. Si les taux sont élevés, ça augmente la facture. Si les taux sont bas, ça baisse la facture. Actuellement, les taux sont bas et l'État peut obliger à avoir des taux très bas ou peut prêter lui-même. Donc il y a cette variable d'ajustement qui existe, qui est liée aux États. Après, ils expliquent la mise en œuvre des systèmes, l'amélioration des systèmes de stockage, notamment par STEP. STEP, c'est les systèmes de remontée d'eau en montagne. On a des gros barrages, des grosses retenues d'eau en montagne. On remonte l'eau, donc on consomme de l'électricité quand on produit trop d'électricité. Et on relâche l'eau qui reproduit de l'électricité, qui redonne de l'électricité en descendant. C'est le meilleur moyen de stockage à grande échelle de l'électricité. C'est pas les batteries, c'est l'eau, tout simplement, en montagne. On en a déjà pas mal, hein, en France, des steppes. Donc ça serait à développer. Il parle aussi d'autres moyens de stocker. En tout cas, la conclusion que nous dit l'ADEME, c'est que d'abord, il rappelle que c'est pas un scénario politique qui montre, c'est un scénario scientifique. Ils ont étudié tous les cas possibles et voilà leur conclusion. Alors maintenant, c'est pas les seuls à avoir fait ça. Si on se rappelle du réseau Négawatt qui vient de réactualiser d'ailleurs son rapport, ils arrivent à peu près aux mêmes choses de manière un peu différente, hein, pas toujours le même mix d'énergie d'ailleurs. Ils arrivent au 100% renouvelable sans problème. Donc voilà, ce qui fait qu'on garde du nucléaire, il faut l'avoir en tête, c'est juste une question politique. Et c'est juste les entreprises nucléaires qui font pression avec leurs amis scientifiques, enfin ingénieurs plutôt, issus des grandes écoles qui sont très nucléophiles, qui font pression pour qu'on garde du nucléaire, hein, parce qu'il n'y a pas de justification scientifique ni technique. Et alors dans la série des rapports qui cassent le discours des nucléophiles, on a un rapport qui a été fait par le cabinet qui s'appelle Wise Paris, donc qui travaille sur, là, qui a répondu à une question posée par le réseau Santé Nucléaire, le réseau Action Climat et France Nature Environnement, et j'ai oublié Greenpeace, sur quel est l'impact réel au niveau du réchauffement climatique de l'énergie nucléaire. On rappelle qu'EDF balance tout le temps des messages en disant le nucléaire c'est une énergie décarbonée. En gros, l'énergie, l'électricité nucléaire, elle émet zéro CO2. Alors, ils vont démontrer dans ce rapport que c'est totalement faux. Bon, on le savait déjà, mais là, ils le démontrent, ils expliquent bien tout. Parce que y a deux biais, grosso modo, dans la propagande d'EDF. Le premier, c'est de dire, oui, on met du nucléaire à la place des centrales électriques qui fonctionnent à l'énergie fossile, donc on économise beaucoup. Or, en fait, c'est faux. Aujourd'hui, si on doit installer des centrales de production d'énergie électrique en France, on installerait du renouvelable. Donc si on fait du nucléaire, des nouvelles centrales, c'est pas pour prendre la place des centrales thermiques, il y en a de moins en moins, mais c'est pour prendre la place du renouvelable. Et du coup, le coût en CO2, il va être difficile à maintenir en disant nous on est super bon. Et puis il y a la deuxième chose, le deuxième biais, c'est qu'ils partent du principe que la production elle-même d'électricité n'émet aucun CO2. Et ils ne regardent pas autour. Ils ne regardent pas la fabrication de la centrale, le démantèlement de la centrale, le retraitement des déchets, le stockage des déchets, la maintenance du stockage des déchets, le transport de l'uranium, l'enrichissement de l'uranium. Et tout ça, calculé, ben on se rend, ce que redonne le rapport, on se rend compte que ça émet du CO2. Et ça émet du CO2 beaucoup plus que le renouvelable. Parce que le renouvelable, ça n'émet que quasiment à la fabrication et un peu au retraitement, mais ça n'émet pas énormément, hein, même si ça en nécessite quand même, et beaucoup moins au niveau du fonctionnement, parce qu'une fois que le renouvelable est fabriqué, une fois qu'on a fait un panneau solaire thermique, un panneau solaire photovoltaïque, ça consomme plus de CO2. Or, une centrale au nucléaire, il faut continuer d'amener de l'uranium, il faut continuer de transporter les déchets, il faut continuer de retraiter les déchets. Donc voilà, c'est un beau mensonge. D'ailleurs, Réseau Santé Nucléaire et Réseau Action Climat hésitent à porter plainte contre EDF pour les publicités mensongères qu'ils font, puisque on rappelle que EDF estime, enfin ils ont estimé dans la pub, ils disent dans la pub que grâce aux centrales françaises, l'électricité française est la plus décarbonée d'Europe et qu'elle émet en moyenne 20 fois moins que la moyenne européenne. Or, en fait, dans les chiffres, ils tiennent pas compte de la réalité. Voilà. Donc, il y a une plainte, enfin, ils espèrent déposer plainte. Bon, je sais pas si la plainte pourrait aboutir et que ça pourrait condamner EDF. Ça serait intéressant. EDF serait condamné à faire des pubs réalistes, c'est-à-dire à dire que, à ne plus dire que voilà, leur électricité elle est décarbonée, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, aujourd'hui.
Je sais pas si t'as entendu, mais mardi il y a eu une manifestation devant Fessenheim, qui était une intersyndicale CFDT, CFE, CGC, CGT, FO. Alors c'est vrai que dans ce Canu Info, on a une tendance à quand même soutenir les travailleurs en lutte. Avec les travailleurs du nucléaire, on a toujours un petit peu un problème quand ils sont pro-nucléaire.
Ah bah, notamment la partie énergie à la CGT pourra faire un débat dans pour l'anniversaire du Larzac, là. Ils avaient eu le courage de venir au débat. Ils sont quand même hyper pro-nucléaire. Et même au nom de la défense de l'emploi, alors que toutes les démonstrations économiques montrent que le produire l'électricité avec de l'énergie renouvelable crée plus d'emplois que le nucléaire.
Ouais, alors Magali, dont je tairai le nom quand même, pour pas que vous ayez lui jeté des tomates, déléguée CFDT a expliqué que le nucléaire Fessenheim, c'est un outil de travail sûr et générateur d'emplois dans la région. Hein. Elle dit exactement ce que tu dis, toi. Ils ont un petit peu du mal quand même, parce que je pense que Laurent, si jamais ces travailleurs demandaient une reconversion, demandaient des avancées, puis surtout un petit peu des certitudes aussi sur l'avenir du nucléaire en France, tu serais certainement le premier à aller tenir la banderole.
Ouais, sauf que
mais
en fait,
les syndicats, c'est pas ce qu'ils disent. Quoi.
Ouais, ce qu'ils ont jamais compris, c'est que si on rentre dans un système de démantèlement des centrales, il faut 50 ans pour démanteler une centrale. Du coup, ça crée encore du travail dans le nucléaire pendant 50 ans. Donc ceux qui sont au travail dans le nucléaire perdraient, il y en a aucun qui perdrait leur travail, hein, puisqu'il y a encore du travail pour démanteler le système qui est un truc ultra lourd. Donc en fait, il y a toujours ce mensonge de, parce que la CGT qui des fois dit c'est mal de faire du chantage à l'emploi, quand ça les arrange, ils font le même chantage à l'emploi, notamment dans leurs convictions anti-environnementales. Donc moi, je veux bien protéger les travailleurs. D'ailleurs, le premier réflexe de la CGT, ce serait de dire qu'aucun travailleur devrait prendre le moindre dose. Puisqu'on rappelle que la moindre petite dose peut être mauvaise à la santé, et la CGT s'est jamais opposée à ça, et les autres non plus, à dire il ne doit y avoir aucune dose de radioactivité subie par un salarié. Or, ils savent que c'est pas possible dans le nucléaire, donc ils préfèrent mettre en danger la santé des travailleurs au nom de soutenir, au nom du travail, de cette religion qu'elle travaille, et notamment le travail dans le nucléaire. Donc voilà, ils sont toujours ambigus, le cul entre deux chaises, on appelle ça comme on veut. En tout cas, voilà, ils n'ont jamais un discours clair et sérieux là-dessus.
Ouais, alors qu'il y a des confédérations syndicales qui se sont déclarées anti-nucléaires sous un slogan simple, hein, société nucléaire, société totalitaire. Voilà, donc c'est possible d'avancer sur le sujet, même dans des organisations syndicales. Alors, juste pour dire très très vite, parce que je trouvais que c'était quand même une bonne nouvelle. Bon, ok, les bonnes nouvelles, vous allez trouver que c'est bizarre, mais ça nous vient de Shell, la multinationale.
Royal Dutch pas mal, elle aussi.
Shell, qui a publié aujourd'hui une perte nette de plus de 7 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2015. La plus forte baisse enregistrée au cours de ces 10 dernières années. Alors pourquoi? Ben parce que
ils n'ont pas payé l'amende.
Non, mais c'est pas ça. C'est surtout que là, il y a l'abandon des projets au Canada et en Alaska au niveau des forages, et que ben que tout ça, ça la fout mal pour leur petite comptabilité. Alors bon, en plus de ça, il y a des perspectives des cours du pétrole et du gaz à long terme, pas très bonnes. Hein. Donc pour Shell, c'est pas l'éclate. Ben voilà, écoute, hein, les pollueurs, ils perdent plus de 7 milliards. Même pour des multinationales comme ça, ça reste beaucoup, là.
Ouais, bon, c'est des compagnies qui font des bénéfices plusieurs dizaines de milliards.
Ouais, mais là, quand même, la presse éco est assez unanime, c'est une belle catastrophe.
Alors, pour terminer ce Canu Info, on va parler un peu de la peine de mort, histoire de faire un enchaînement avec la petite cuillère qui va avoir des sujets qui ne seront pas non plus très sympathiques. Alors, d'abord, l'Arabie Saoudite, on a quelques mauvaises nouvelles. La Cour suprême a confirmé la peine de mort contre un dignitaire chiite, Baker Al-Nimr, j'imagine mal, je m'en excuse, mais donc il avait juste participé à des manifs anti-gouvernementales. Alors c'est pas le seul, hein, y a eu d'autres chiites qui ont été condamnés, puisque c'était durant le mois d'octobre, des procureurs qui avaient requis la peine de mort contre 16 personnes pour aussi, alors officiellement des actes terroristes, mais en fait d'avoir participé en 2011, dans la foulée des printemps arabes, à des manifestations contre le régime. Donc, on sent bien monter l'instrumentalisation de la peine de mort contre les chiites en Arabie Saoudite. C'est quand même compliqué. On rappelle, hein, l'Arabie Saoudite, c'est un pays majoritairement sunnite. Et du coup, ils condamnent les chiites au maximum avec des raisons farfelues, puisque c'est vraiment des opposants, mais un opposant mérite ni la prison ni la peine de mort, bien évidemment.
On pourrait juste glisser cette information quand même, qui était aussi du jour, que
Raif Badawi,
blogueur activiste saoudien, a obtenu le prix Sakharov pour la liberté d'expression.
C'est l'équivalent du prix Nobel de la paix de l'Europe.
Ouais, c'est le Parlement européen, ouais. Voilà. C'était juste pour le rappeler.
Alors pour rester en Arabie Saoudite, on en est à 137 a priori exécutions depuis le début de l'année. À savoir qu'en 2014, il y en avait eu 87 qui avaient été exécutés. Là, on n'est pas encore à la fin de l'année. On est déjà beaucoup plus élevé au niveau du nombre de morts. Le dernier a été décapité au sabre, hein, comme ça se fait en Arabie Saoudite. Donc au milieu du mois d'octobre. Alors on va parler un petit peu maintenant de l'Iran. Alors du coup, c'est de l'autre côté, c'est du côté des chiites, puisqu'il y a eu des condamnations qui ont énervé notamment Ban Ki-moon, qui a dit son petit mot lundi dernier. Faut dire que Fatemeh Salbei, qui est âgée de 23 ans et qui est condamnée donc à mort pour un crime qu'elle aurait commis quand elle avait 17 ans, de même que Zamad Zahabi, qui est condamné aussi à mort et qui a été pendu. Ils sont morts tous les deux, hein. Ils ont été condamnés et exécutés mi-octobre par l'Iran. Il avait lui aussi 17 ans, donc l'ONU condamne aussi le fait que ce soit des mineurs qui sont condamnés à mort, mineurs au moment des faits, plus au moment de leur condamnation, hein, puisque ça met un certain temps pour arriver. Puis on va aller du côté des États-Unis d'Amérique, toujours sur la peine de mort, avec l'État de l'Ohio qui est bien embêté et qui est obligé de mettre un moratoire sur la peine de mort jusqu'à janvier 2017. Alors c'est pas qu'ils sont devenus sympas, qu'ils ont réfléchi, que c'était pas très bien de tuer les gens, tout ça. Non, c'est juste qu'ils ont toujours d'énormes problèmes pour se procurer les produits qu'ils injectent à leurs méchants condamnés à mort, donc ils sont obligés de suspendre les exécutions. Il y a eu plein d'exécutions. On vous rappelle que le record, c'est, je crois, 40 minutes pour un condamné de souffrance atroce, de torture avant de mourir. Donc c'est quand même un régime démocratique et que dans les textes aux États-Unis, on ne doit pas mourir dans la douleur, les États sont un peu embêtés. Donc voilà, l'Ohio suspend jusqu'en juillet 2017 le temps de trouver des produits. Il faut savoir que la majorité des produits utilisés sont fabriqués par des labos européens qui refusent de vendre leurs produits pour tuer des gens. Hein, ce qui est, pour une fois, le capitalisme a presque une conscience. On notera quand même que le Texas continue, lui, tant bien que mal, à assassiner. Ça, il n'y a pas de souci. Début octobre, un condamné texan a été exécuté. Il avait demandé un sursis, mais voilà, il l'a pas obtenu. C'était la 11e cette année pour le Texas, qui est l'État qui, bien sûr, condamne le plus. Et puis juste un petit mot pour terminer avec le Maroc, puisque mi-octobre, il y avait la 13e journée mondiale contre la peine de mort. Et le Maroc s'est pas mal mobilisé. Il y a une coalition marocaine contre la peine de mort qui est vraisemblablement assez active. Alors, faut savoir que depuis 1993, il n'y a pas eu de condamné à mort exécuté au Maroc. Mais il y a toujours des condamnations. Hein, cette année, il y a eu encore quelques condamnations parce que la loi, elle est mal faite, sur des faits qui relèvent pas, d'après eux, de crimes horribles, hein, qui pourraient entraîner une adhésion de la population sur la peine de mort. Donc il y a une mobilisation importante d'une partie des militants marocains contre la peine de mort. Et ils expliquent d'ailleurs qu'aujourd'hui, au Maroc, personne revendique le droit à la peine de mort. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux du vide. Et ils se disent que c'est peut-être le moment de faire changer les choses parce que personne dans le camp adverse. Il n'y a pas de militants pro-peine de mort qui est mis en avant. Ils rappellent d'ailleurs que l'islam, c'est une religion tolérante et qu'elle n'autorise pas la peine de mort. Et d'après eux d'ailleurs, ce qui est assez juste, c'est issu du passé colonial, cette peine de mort. Et que c'est le moment aussi d'effacer un peu encore des traces du passé colonial. Donc voilà, ils ont pas gagné encore, mais c'est quand même important de dire qu'il y a des gens qui militent et qui sont positifs et qui pensent qu'ils vont faire avancer les choses, et c'est le cas au Maroc, donc on leur souhaite bien du courage et de gagner effectivement cette victoire contre la peine de mort.
Alors s'il y a un truc quand même qui perdure au Maroc, c'est la torture.
Oui, souvent, on ne peut pas gagner partout.
Les ONG soulèvent ce problème. Alors je ne sais pas si ça a avancé, mais en tout cas samedi, il faut savoir qu'il y a 8 policiers qui ont été arrêtés pour torture. Ils avaient arrêté un jeune gars pour une histoire de shit. Ils l'avaient emprisonné, torturé. Il était mort en prison, dans sa cellule. Voilà. Donc, est-ce que ça va faire avancer la fin de la torture au Maroc? Je sais pas, mais en tout cas, c'est suffisamment rare pour le relever quand même au Maroc qu'il y ait des policiers qui soient arrêtés.
Ouais. On va faire l'agenda maintenant, puisqu'il nous reste 2 minutes avant la petite cuillère. On va commencer par annoncer une manifestation qui a lieu samedi, le 31 octobre. Nous serons donc après-demain de soutien à la jeunesse palestinienne qui résiste. C'est appelé notamment par le collectif 69 Palestine pour tout ce qui se passe en ce moment en Israël. Et il nous rappelle, et pour une fois, je vais pas être équilibré, je vais pas donner les morts israéliens, parce que ça commence à faire aussi de mettre toujours sur le même pied les deux populations. Il y en a une qui souffre quand même beaucoup plus. Donc 61 Palestiniens tués, 8000 blessés et 10 000 arrestations depuis le début octobre. Donc voilà, il faut se mobiliser pour soutenir le peuple palestinien. C'est samedi 31 octobre à 15h, place Bellecour. Et est-ce que t'as quelque chose dans l'agenda? Bah non, juste pour terminer, depuis plusieurs années, il y a Novembre Libertaire, on s'installe partout, ça s'appelle, qui se met en place, et c'est le mois de novembre, ça commence bientôt, hein, ça commence dimanche. Donc voilà, et la première fête, elle est samedi. Bon, il commence un peu en octobre. Voilà, donc ça sera de l'autre côté du pont, cours Gambetta, de 15h à 1h du matin. C'est l'occasion de découvrir ce qu'il va y avoir dans ce mois libertaire. Il y aura à manger un chili végétarien au carnet, pour ceux qui préfèrent la viande. Il y aura de la musique, il y aura plein de choses. C'est donc voilà, une après-midi, une soirée autour du lancement de ce mois libertaire. Et puis après, il y a plein de choses. Je vous laisserai aller voir le programme qu'on trouve sur Rebellion, qu'on trouve sur le site de la Griffe, qu'on trouve à pas mal d'endroits, puisqu'il y a plein de choses organisées durant ce mois libertaire, notamment des choses sympas, intéressantes, sur par exemple la Tunisie, la révolution face au fondamentalisme, ça sera vendredi 6 novembre, ça sera à l'atelier des canulars, enfin voilà, plein de choses dans ce novembre libertaire 2015.
Ben, on va vous laisser pour ce soir,
et ben oui,
avec la petite cuillère. Nous on se retrouve la semaine prochaine, on vous souhaite une très bonne soirée.
Bye. Ciao. Bye.